on commence l'émission du podcast de Mac-Québec, celle du 23 avril 2010. Et c'est moi-même au micro, Sylvain Grandmaison, avec juste en face de moi, le grand Laurent Maisonnave.
Bonjour Sylvain!
Bonjour!
Comment vas-tu aujourd'hui?
Ben, ça va bien, c'est mon troisième anniversaire sur Twitter, ça fait trois ans.
Oh, bonne fête!
Ben merci. Et je suis content d'être là aussi. Oui, j'ai eu des cupcakes... J'en ai un et demi de manger sur trois pour célébrer mes 3 ans.
Pour fêter ce troisième anniversaire, c'est quand même merveilleux.
Oui, hein? Et tant qu'à le souligner, c'est sur S Grand Maison, mon usager.
N'a-t-on pas quelqu'un avec nous aujourd'hui?
Oui, ah!
Allô? Je viens juste d'arriver.
Laurent Lassalle.
Je suis pas là du tout depuis le début.
La terreur barbue du web québécois. Oui.
Bonjour,
et ça va bien?
Donc, oui.
Et toi, on te retrouve sur Twitter aussi.
Oui,
des
oui,
fois,
Laurent Lassalle au complet.
Au complet?
Le nom complet. Sur
lui, il est entier, cet homme.
Oui, on l'a vu à moitié à un moment, mais
non,
ouais.
Là,
il s'est recomposé.
Et toi, Laurent Maisonneuve sur Twitter?
On me trouve sur TheLaurent, Z2Laurent. On tape ça sur Twitter, sur Facebook, sur Google.
Et on tape dessus.
On me tape dessus, j'adore ça, aussi. Allez-y. Tapez.
Donc voilà, sinon, entre autres, vous pouvez, quand je publie, me retrouver sur québecbalado.com, bifono.ca. Et de ce temps-ci, je suis plus trop tranquille parce que, il faut dire que je voyage à Sherbrooke.
Oui, tu partages ton savoir en ce moment.
Ouais, je partage mon savoir et il faut dire qu'en ce moment, mes étudiants commencent à s'amuser dans les médias sociaux pour faire une campagne de pub virale. Ils commencent à s'amuser, vous allez voir ça un peu, se promener sur le web.
Oui, tu m'as raconté une couple d'idées.
Tu as parlé de quoi?
En fait, le but, c'est de promouvoir le graphisme au cégep de Sherbrooke, faire connaître le graphisme-là, parce que c'est pas tout le monde qui connaît, qui sait que bon, il y a un cours de très bonne qualité qui se donne là au niveau collégial, et aussi, eux, se faire connaître individuellement, développer leur personal brand, leur marque personnelle.
Oh.
Et ça marche quand même bien.
Tout un programme, il faut dire qu'ils ont un bon prof.
Oui.
Hein?
Ben, merci.
Bon, maintenant que c'est fait, on va parler de Mac.
Oui, on va parler de Mac, c'est sûr, aujourd'hui. Donc, on va commencer tout de suite avec, après Linux, l'Android sur iPhone.
Oui, un développeur canadien, Dave Wong, a trouvé le moyen d'installer... l'an passé, il avait déjà trouvé le moyen d'installer Linux sur iPhone. Puis là, il a fait une petite vidéo sur YouTube. YouTube étant la propriété de Google, puis il est en train de montrer Android sur iPhone. C'est quand même cocasse. Donc, on voit justement un appareil 2G, iPhone 2G, où ce qu'il a réussi à installer ce qu'il appelle Open iBoot, qui permet le dual boot. Donc, l'appareil fonctionne numéro 1 avec l'OS 3 d'Apple. Puis, quand on le redémarre et qu'on tient le bouton Home, je pense que c'est genre 5 secondes, on redémarre justement dans le système d'exploitation de Google Android. C'est long à démarrer. Je ne sais pas si tu as écouté la vidéo, mais ça peut prendre... facilement 2-3 minutes. Il nous parle un peu justement des raisons pourquoi ça a tardé avant qu'il réussisse à faire justement
Moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'après, on dit qu'Apple n'est pas ouvert. On arrive à jouer Linux et Android sur iPhone.
Ouais, mais c'est pas Apple. Mais il y a un peu de mauvaise foi. C'est ça. Le operating system fonctionne numéro 1. Il est capable de recevoir des SMS, de recevoir des appels, d'en envoyer. Il y a certains drivers qui n'ont pas pris le temps de convertir, mais en somme, c'est quand même une version alpha, mais un proof of concept très intéressant.
Excellent. Attendez un peu, là, je suis en train de me promener un peu partout sur
il y a tellement de choses
réseaux.
À dire.
Oui, puis là, j'ai perdu un peu le fil, excusez-moi. Deuxième sujet, Apple ne donnera plus de support pour le iPhone 2G. Je pense que, est-ce qu'on en avait un peu parlé? En fait, c'était pour le développement du système 4.
Oui, le système 4 qui sera plus supporté.
Maintenant, on dit plus de support pour l'iPhone 2G, oui. Tout simplement.
Pour la première génération qui est sortie en... En 2000?
Trois ans? Hein, 2000? De quoi tu parles?
En 2007? Oh là!
Wow!
Non, mais j'avais le premier chiffre.
Ok, wow, ouais, c'est ça. J'étais tout près.
J'avais pas le dernier, ouais.
Quand on arrondit, c'est pas ça. Hein,
en 2007. Mais pourtant, c'est pas si loin que ça.
Ça fait trois ans. Déjà, il y avait notre ami ici qui commençait Twitter.
Je tweetais, puis écoute, une machine.
Ah, sexe machine.
Je te le fais pas dire.
Mais c'est dommage, oui, parce que la dernière fois, on disait que l'OS 4 ne serait compatible qu'avec le 3GS et le futur iPhone HD. Mm-hmm. Donc, le 2G et le 3G étaient laissés tomber. Puis là, pour le 2G, je pense qu'à la revente, ça va être difficile pour lui parce que s'il n'y a,
ouais.
s'il y a pas l'OS 4, s'il n'y a plus de support, ça va pas être facile.
Ça, ouais, ça va être problématique. Et
ils veulent vraiment qu'on en achète des nouveaux modèles.
Mais je ne sais pas si le support, c'est parce que. Je sais pas. Parce qu'on on s'entend qu'un vieux téléphone cellulaire normal, un téléphone qui n'est pas intelligent, mettons, la compagnie, après 3 ans, continue à le supporter. Elle va le supporter 5-10 ans facile. Si tu as des problèmes avec ton iPhone 2G puis tu appelles à Apple, ils peuvent pas t'aider. Je trouve ça weird. C'est normal que le système d'exploitation qui demande plus de pouvoir, je peux comprendre.
Ça tombe dans la désuétude.
Mais dans la pratique aussi, il faut voir que les gens, en moyenne, tous les 2 ans, changent leur cellulaire. Donc,
oui, ouais.
Donc bon, c'est une demi-mauvaise surprise.
Ouais. Wow. Ça allait arriver un jour ou l'autre. Aussi, Adobe laisserait tomber définitivement le développement de Flash to iPhone pour sa suite de logiciel CS5. On avait suivi un peu la saga. Au début, on avait annoncé que déjà, il avait développé Flash to iPhone pour simplifier le processus de création d'applications iPhone. Là, en sachant que Apple bloque un peu tout ça. Ben là, il laisse la fonctionnalité là dans son état actuel pour ceux qui veulent développer quand même avec, sauf que il tire
ça
la plug.
Ouais. Ouais, parce qu'ils disent qu'ils arrêtent le développement, mais finalement c'est Apple qui a décidé de pas les intégrer, donc ils sont obligés d'arrêter.
Sont obligés d'arrêter. Mais il y a eu des rumeurs comme quoi qu'ils allaient poursuivre Apple, et de ce que j'ai vu, ça s'est pas concrétisé.
Ils peuvent rien faire instantané. Hein.
Non, mais
attends,
c'est ça.
Ils peuvent pas.
Ils peuvent pas les accuser de position dominante. C'est pas le cas.
Ouais. Oui et non.
Non, on entend de l'écho en enregistrant l'émission. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, sur l'App Store, il y a une centaine d'applications déjà qui sont compilées avec Adobe CS5.
Ouais, c'est ce qu'il disait.
À savoir, est-ce que Apple va les virer?
Adobe pense qu'ils vont se faire virer.
Ouais.
Mais Adobe n'était pas le seul à être concerné. Il y avait Titanium notamment et d'autres applications tierces. Qui permettait de compiler pour des applications mobiles sur Android, sur iPhone et sur BlackBerry en même temps.
Autre nouvelle, Safari a plus d'un concurrent sur le iPhone, iPad après Opera Mini. Qu'est-ce qu'on a?
On a Atomic Web Browser. L'information, je l'ai découvert par Benoît Descarry qui a fait un très bon article là-dessus. L'avantage
qu'on
de cette application...
si jamais il écoute. Hein,
Benoît, on te salue. L'avantage de cette application, c'est que même si esthétiquement elle n'est pas très belle, on retrouve les onglets qu'on a sur maintenant tous les navigateurs modernes. Donc, passer d'un onglet à l'autre, ce qui est assez sympathique, surtout pour un grand écran du iPad, parce que cette application est faite pour le iPad. Elle est à 1$. Cette grande application, on retrouve quasiment un écran d'ordinateur.
Et presque un vrai furetard. Et ça serait, en tout cas, je ne sais pas si Apple a ça dans ses plans, mais de développer un furetard qui est plus près d'un furetard réel, parce que pour l'iPad, on s'entend qu'au niveau de la surface, on a la surface pour le faire, probablement la puissance au niveau du processeur pour l'opérer, donc il n'y a pas de raison.
Déjà, sur iPhone, il est vieillissant, Safari, là.
Ouais.
Moi, je trouve qu'il fait bien la job, mais sur le iPad, j'ai pas remarqué, ils n'ont pas rajouté aucune nouvelle fonction.
Mais non, justement.
C'est basic, OK.
Ouais.
Bon, peut-être.
Même Opera, je sais que tu n'es pas fan d'Opera Mini.
Quand je l'ai essayé, il était archi lent. J'aime le fait qu'on ait une page d'accueil, qu'on peut setter. Visuellement, il est un petit peu plus intéressant, mais j'ai vraiment un problème. J'ai un problème de vitesse sur l'iPhone 3G. Peut-être qu'il est optimisé pour
3G.
Ah
oui, c'est ça. Fais gaffe, il va bientôt plus être supporté. Hein.
Ouais.
Mais on va parler d'un appareil tantôt qui
va être un peu plus supporté. Ouais. Nouveau MacBook Pro.
Oui, on a une nouvelle gamme de MacBook Pro
qui
est sortie la semaine dernière.
Ouais, on avait annoncé au dernier épisode que ça s'en venait d'ailleurs.
Oui, c'était
tout chaud. Toujours rumeur, on ne savait pas.
Ouais.
C'est pareil, ils l'ont annoncé assez vite, là, en moins de 3 jours. Mm-hmm. Je crois que ça s'est fait.
Ah, tout de suite après le iPad. Hein?
Oui, exactement. Évidemment, on a eu les cores Intel i5 et i7 qui sont arrivés, qu'on avait déjà sur les iMac, là qui arrivent sur les MacBook Pro et qui vont bientôt arriver également sur les Mac Pro. Comme ça, toute la gamme sera en
toute la famille
i5,
sera intégrée.
i5 et i7. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quasiment les mêmes ordinateurs. Je veux dire, au niveau de design du format, c'est la même chose. On a un changement au niveau du trackpad où on a un confort plus à l'iPhone, d'après les premiers commentaires, d'après les premiers
ouais,
tests.
Ouais, ben, il parlait de... C'est quoi, c'est Zoom-in qui est très iPhone? J'ai pas très bien compris ce qu'il semblait dire. Il disait que ça faisait très iPhone, mais je veux juste essayer de reciter. Inertial scrolling. Un scrolling d'inertie. Fait que je pense que c'est... Tu peux scroller en diagonale?
Oui, de pouvoir tourner une image.
On peut déjà.
On peut le faire, ça?
Ben,
prendre une image et la tourner sur ton trackpad?
Ça m'arrive tout le temps, là, dans Photoshop par accident, mais je sais pas.
Il y a certains logiciels qui le permettent, fait qu'il n'y a pas de raison pourquoi que ça...
Peut-être qu'ils l'ont intégré de manière logicielle dans les nouveaux MacBook Pro. Sinon, si on note une chose quand même, moi, que je trouve désagréable, c'est une augmentation du prix du 15 pouces qui, de base, est 100$ plus cher qu'avant.
Oui, mais je veux dire, c'est un nouveau processeur.
Oui, mais
c'est sûr qu'on a été gâtés les dernières fois. Le prix descendait toujours à chaque nouvelle génération. Là, on arrive, puis oups, il augmente un peu.
Oui, c'est... Moi, je trouve ça désagréable. Là.
Non, mais on va mais pas c'est dire sans... que c'est agréable, mais de là à faire un point pour en parler dans un podcast...
Ben si.
Je sais pas.
mais non, à la rigueur, c'est révélateur de leur positionnement qui est très haut de gamme. Par rapport à la concurrence,
ouais, mais ça a toujours été comme ça.
Ils en offrent plus nouveau. Pour moins cher. Ouais. Mais c'est pas nouveau, c'est un changement parce qu'ils avaient quand même fait des réductions de prix sur les derniers appareils qu'ils avaient mis en vente. Cette fois-ci, ils ont décidé de revenir à la hausse.
Ouais, mais bon.
Mais bon.
Mais bon, c'est quand même
juste
que ça
intéresse,
100 dollars.
Point suivant.
Ouais, point suivant. Twitter a acheté Tweety, ça s'est fait
genre juste après l'émission.
Juste après l'émission, je pense.
Émission.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais, mais ils ont attendu qu'on finisse l'émission, je pense.
Ouais, quand même.
Et
parce
là,
qu'ils savaient que on aurait pris toute la place. Donc, ce qu'ils font premièrement, c'est qu'ils mettent la gratuité pour l'application pour le iPhone. Déjà, qui était quoi, 2,99$ environ.
Oui, un truc
pour iPhone, donc c'est
2 ou 3 dollars.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un très bon client simplifié pour, Twitter pour Mac, pour les ordinateurs et pour le iPhone.
C'est vraiment un des meilleurs.
Personnellement,
puis en plus, visuellement, il ressemble beaucoup à Twitter.
Oui.
Il y a d'autres applications qui sont un peu plus uniques dans leur look. Je pense à Reportage
et dans leur fonction.
Ou à TweetDeck. C'est sombre. On dirait pas qu'on est sur Twitter, on dirait que c'est d'autres choses, puis c'est correct. Mais celui-là, il y avait un petit look très Apple, très Twitter.
Très Twitter, oui. Puis donc, c'est ça. Donc, la gratuité, c'était une dure nouvelle pour Seismic. C'est sûr que pour Seismic, le plan, c'était peut-être d'être racheté par Twitter ou quelque chose comme ça. Et là, ils se sont fait... parce qu'il y a eu des pourparlers entre Seismic et Twitter à un moment donné pour qu'eux rachètent Seismic. Mais ça ne s'est jamais concrétisé.
Seismic est l'ensemble des développeurs qui utilisent les API, l'API Twitter pour faire des logiciels.
Ouais,
le lendemain, ils se sont dit « Hey, qu'est-ce qui se passe ?»
Ouais.
Au début, ils nous ont laissé toute la place, on peut faire de l'argent. Puis là, ils reprennent le business.
Mais c'est dur pour Seismic qui est parti d'une application, plateforme vidéo sur un browser qui est devenu une application qui servait à gérer des réseaux sociaux, mais beaucoup Twitter, évidemment. Et là, c'est comme une deuxième refonte de leur...
Ça empêche personne de continuer d'utiliser les API de Twitter et tout ça, mais c'est clair
c'est sûr.
Quand tu as la version officielle de l'application... Si on fait le parallèle avec Facebook,
oui.
A lancé son application Facebook officielle dès que l'iPhone est sorti, c'était clair. Donc, il n'y a personne qui s'est aventuré là-dedans. Ouais. Tandis que Twitter, c'était plus l'esprit ouvert, puis n'importe qui développé. Nous, on se concentre sur notre site web. Puis souvent, il faisait mention justement que « Oh, la version du site web qu'on utilise, nous, en alpha, si vous aviez ça, vous, pauvres usagers, vous n'utiliserez plus vos applications tellement que c'est plus avancé. » Puis c'est vrai qu'il y a des nouvelles fonctionnalités intéressantes qui sont arrivées dernièrement. Mais oui, là, on est en droit de se poser la question « Que réserve l'avenir
?» À mon avis, les développeurs vont y penser peut-être à deux fois en disant ce service-là, peut-être que Twitter va le faire lui-même, mais j'aurais du mal à compétitionner.
Oui, tout à fait.
Il va falloir qu'il se force peut-être un peu plus sur les fonctionnalités uniques.
Les développeurs?
Les façons, oui.
Ben, ça va devenir difficile à un moment. Là,
non, ouais. Mais par exemple, Reportage, juste la façon qui affiche la timeline, c'est différent, c'est nouveau. Peut-être essayer de trouver des nouvelles façons
être différent, en autant que ce soit plus performant ou mieux
c'est
adapté.
C'est
à
différent,
besoin,
c'est nouveau, c'est sympathique, je l'ai vu, mais est-ce que ça pogne vraiment? Est-ce que les gens adhèrent à ce système-là? Non.
Faut voir.
Ben,
bon.
Regarde, c'est une bonne, c'est une idée. Non. C'est peut-être pas une bonne idée.
Attends un peu, là, on va mettre ça à mute. Non. Non. Et simplement pour terminer ce sujet-là, ils ont lancé aussi une version BlackBerry en même temps qu'ils ont annoncé leur rachat. Donc voilà, c'est intéressant aussi pour les gens qui sont sur BlackBerry. C'était une application seulement iPhone auparavant. Et voilà. Autre nouvelle, Apple démontre une ouverture concernant le décodage matériel H.264.
Oui.
C'est quoi cette affaire-là?
Aha. C'est quoi donc?
En fait, la version, ça vise particulièrement Adobe, mais c'est vrai pour n'importe qui. Apple a publié un rapport, un papier technique qui explique aux développeurs justement comment profiter de la capacité de certaines cartes graphiques à décoder de la vidéo H.264. Au début, Apple était très fermé à cette idée-là, ou du moins semblait pas intéressé à rendre service, par exemple, à Adobe, qui voulait l'implanter dans Flash 10.1. Donc, la version justement actuelle de Flash 10.1 sur Windows profite de cette capacité-là de certaines cartes graphiques à décoder la H.264, tandis que sur Mac, c'est pas possible. Mais maintenant, Apple explique comment faire. Donc, peut-être qu'Adobe va écouter ou peut-être qu'Adobe va s'en calisser.
Ouais, mais de toute façon, c'est pas ce qui fera amener non plus Flash sur iPhone.
Non, ça c'est clair. Non. Mais on parle pas d'iPhone. Non. On parle en général. Donc, puis des cartes graphiques, on parle surtout d'ordinateurs.
Mais si on a une meilleure utilisation de Flash déjà sur Mac, ça sera déjà une bonne chose.
Ça va déjà être merveilleux. Imaginez si vous écoutez YouTube, si vous écoutez plusieurs vidéos en même temps ou juste compressé, parce que c'est vrai pour le décodage, mais c'est vrai pour l'encodage aussi. L'encodage nécessairement va être plus rapide. Ou ça n'a aucun impact?
Si c'est encodé à la
non,
source,
mais
non?
Je t'avoue que...
je m'adresse aux spécialistes vidéo.
Oui, justement, j'ai du mal à voir ce que ça apporte
parce
vraiment
niveau,
de plus.
Au niveau des performances, j'imagine, le processeur peut être utilisé à d'autres fins pendant que la carte graphique...
Oui, s'ils connaissent mieux... ceux qui font des applications qui utilisent le H.264, s'ils connaissent mieux le fonctionnement du H.264, ils pourront peut-être optimiser leur application. Le premier, c'est Flash. C'est vrai que moi, mon Mac, les rares fois où il chauffe, là, il fait du bruit, c'est quand je regarde une vidéo en Flash.
Ça. Quand tu écoutes du YouTube ou des fois quand tu as une couple de Google Docs ouvert en même temps puis qu'il y a d'autres personnes qui jouent dessus, au niveau des performances, c'est surprenant.
Et ça le fait plus sur Mac que sur PC. Ah. Donc, c'est pour ça aussi que Steve Jobs dit que Adobe est feignant. C'est qu'ils arrivent à mieux optimiser leur application Flash sur PC que sur Mac. Bon. Après, il y a une guerre des formats, notamment dans le domaine vidéo H.264. Ouais. On pourrait en parler longtemps. Google qui vient, du moins, d'annoncer, c'est peut-être une rumeur, que le format VP8 qui vient en concurrence de H.264. Serait peut-être open source, ce qui fera de la concurrence H.264, qui pour l'instant est licencié. Il faut une licence et qui est payant pour un usage commercial. Mm-hmm.
Mais c'est quand même, en ce moment, c'est quand même le standard.
Oui.
C'est toujours la même chose, c'est la guerre de repartir un nouveau standard. À un moment donné, on n'en finit plus.
Oui, le problème, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on se retrouve dans la même guerre que cassette Betacam. Ouais. Blu-ray, HD, DVD. À chaque fois, on a perdu du temps dans l'acquisition de cette technologie.
Le seul standard qui date depuis quand même assez longtemps, c'est le CD audio, qui est en train de mourir, mais je veux dire, le format en tant que tel a été lancé commercialement en 82. Ça va faire 30 ans. Là. Mm. C'est assez hallucinant.
30 ans.
Ouais.
Un petit coup de vieux.
Mais quand même, pour un support qui est technologique, ouais. C'est quand même une très, très bonne durée de vie. Hein. C'est probablement le seul aussi. autre nouvelle, avec l'iPhone, ça c'est une nouvelle qui m'a surpris, Apple aurait 73% du marché japonais des téléphones intelligents. On se fait dire toujours, il y a tellement des meilleurs téléphones plus évolués
au Japon,
en Asie, patata, ça fait tout. Mais en réalité, les téléphones intelligents qui sont utilisés au Japon, 73% de iPhone au Japon.
C'est rare qu'au Japon, une compagnie américaine est capable d'introduire de la technologie puis de réussir. Par exemple, si je regarde au niveau des jeux vidéo, la Xbox là-bas oublie ça. Mm-hmm. C'est troisième loin derrière. Puis ça, c'était le cas avec la première. Puis la deuxième, ça va un peu mieux, mais quand même, PS3 est supérieure. Puis la Wii,
toi, Laurent, il y a un peu moins d'un an, tu es allé au Japon. Est-ce que tu as vu beaucoup d'iPhone dans les mains des Japonais dans la rue?
Non, pas beaucoup.
C'est marrant, moi, ce chiffre m'étonne vraiment.
Peut-être que c'est...
Parce que j'avais lu qu'il y avait un très mauvais lancement du iPhone
Peut-être
au
que
Japon.
C'est un nouveau business, je ne sais pas. Mais dans les métros, la plupart avaient l'espèce de téléphone avec un écran quasiment aussi gros qu'un iPhone, mais qui se plie en deux. Là.
Ouais.
Mm-hmm. J'ai oublié le nom, là, mais j'ai pas remarqué. J'y retourne cet été, je vais donner mon compréhension.
Tu vas nous faire une enquête.
Ouais, tu nous feras un reportage en direct du Japon.
On pourrait demander
pour
à nos amis Jérôme et Kim qui sont en direct là-bas. Ouais, là, on leur passe un petit coup de fil. On les réveille pour leur poser la question.
Moment, ouais, c'est ça. En ce moment, il est genre 2h30 du matin.
Doute,
peut-être
qu'on pourrait le faire. Là, mais
as-tu vu des iPhones?
Ouais. YouTube lance son service de location en ligne aux États-Unis seulement, évidemment. Pour l'instant.
Ben oui, l'interface est la même. Je veux dire, visuellement, ils ont changé, ils ont rajouté le stock. C'est plus présenté comme un magasin, mais c'est quand même une interface que les usagers sont déjà très à l'aise avec. Puis il y a quand même Google derrière ça, donc au niveau performance, c'est solide. Puis c'est drôle parce que Google avait essayé la même chose avec le Google Vidéo, là, quoi, 4 ans,
oui.
Les locations des émissions. Là, les prix sont très raisonnables. On parle de 99 sous par émission. Puis pour les films, ça passe de 1,99 à 3,99. Je parle en argent américain, même si c'est au pair ces temps-ci.
Moi, ce que je trouve très marrant, c'est que la même semaine, on a YouTube qui fait cette annonce et on a Hulu
ouais.
qui annonce ouais. également un abonnement. Donc, on dirait qu'ils se sont concertés pour dire « Bon, maintenant, on va faire payer les gens pour regarder de la vidéo sur Internet. » Parce que le gros problème de la vidéo sur Internet, de ces plateformes-là, c'est que ça coûte très cher et que le modèle d'affaires n'est pas encore là. Le modèle publicitaire n'est pas suffisant.
Non.
Pour Hulu, c'est clair. Je veux dire, les grandes majors d'Hollywood qui travaillent avec Hulu, ils ont dit « Bon, c'est bien sympa, là, on diffuse gratuitement nos séries, nos films, là, mais ça nous a rapporté 100 millions de dollars l'année dernière, c'est pas assez. »
Moi, je suis curieux de savoir si, justement, la plateforme YouTube fait ses frais seulement par la publicité ou si Google est obligé de pomper de l'argent là-dedans.
Sûrement, avec le bandwidth.
Sûrement.
Je pense
le bandwidth, les serveurs, tout ça, c'est incroyable.
Avec les économies d'échelle, je crois que aujourd'hui, puis quand je parle d'économies d'échelle, c'est que les serveurs et la bande passante servent pour tout le business de Google et pas seulement à YouTube. Donc, grâce à ça, je pense qu'ils arrivent à équilibrer. Mais c'est le seul à pouvoir faire ça.
Mais
c'est le seul à pouvoir faire
ça. Si tu prenais justement juste le service YouTube. Puis tu,
non, c'est toutes pas rentable.
Toutes les frais, c'est sûr que c'est pas rentable, là, ça se peut pas.
Mais
là.
De toute façon, on le voit, Dailymotion, qui est l'équivalent français, mais qui se tient très bien en Europe, qui est numéro 2 en Europe.
Mm-hmm.
Il a eu des subventions du gouvernement français l'année dernière là, pour l'aider à survivre. C'est un peu ça chaque année. Mais il a beaucoup de mal à trouver un modèle d'affaires. Hein.
Non, parce que là, on est rendu au gros sujet du jour, celui du prochain iPhone. Parce que ceux qui, les Apple fanboys comme nous, ont vu le prototype...
La folie.
Le prototype se promener, les histoires autour de ça, c'est absolument incroyable.
J'ai halluciné.
Incroyable.
Quand j'ai lu ces articles, j'ai halluciné. Hein.
Puis aussi, juste le principe qu'il y a un appareil qui est oublié comme ça dans un bar et qui a été retrouvé
ça
par...
Ça a l'air louche. Puis on avait déjà vu des photos dans le passé. Il y a des photos semblables qui avaient passé sur le web. Puis quelqu'un qui avait dit non, c'est une copie chinoise d'un iPhone qui est déjà disponible ou tout ça. Et non, effectivement...
L'histoire est quand même tellement incroyable.
Oui.
Ben oui.
On va la raconter.
Un bar à bière allemand, un mec de chez Apple... qui rentre complètement bourré et qui oublie son iPhone.
C'est quelqu'un de chez Gizmodo qui le retrouve.
Non. En fait, il y a quelqu'un qui a retrouvé l'iPhone. La loi californienne stipule que quand tu retrouves un bien de valeur, faut que tu fasses le nécessaire raisonnable pour essayer de retrouver son propriétaire. Donc, la base de ça, c'est genre demander au barman s'il y a quelqu'un de chez Apple ou s'il y a quelqu'un qui aurait perdu un téléphone. La deuxième phase, ça aurait peut-être été d'aviser le service de police. Parce que la personne en question a déclaré à Gizmodo qu'elle avait téléphoné plusieurs fois à Apple puis qu'elle s'était fait pas prendre au sérieux. Donc, elle a décidé de vendre l'appareil à Gizmodo. 5 000 $ US, et c'est quand même pas rien.
Moi, je suis sûr que Gizmodo l'aurait acheté à 50 000 $.
Ouais. Ouais, 50, c'est...
Avec
c'est
l'argent beaucoup. Qu'ils ont dû se faire, la première journée, ils ont dû avoir des millions de visites.
Tout a été repris. Tous les sites ont repris les trucs de Gizmodo, puis tout le monde, après ça, va sur Gizmodo. TechCrunch, nomme-les, tous les services ont repris ça.
On va parler quand même de l'appareil en question. Oui. Donc, ils reçoivent l'appareil. Malheureusement, l'appareil n'est pas fonctionnel. Donc, si jamais...
Parce qu'il est barré à
distance. Laissez-moi vous donner un indice, un truc, OK? Si jamais vous êtes dans un bar à San Francisco, puis vous trouvez un iPhone qui semble
qui
être un prototype. La première chose à faire, on enlève la carte SIM. On enlève la carte SIM, c'est tout. Comme ça, au moins, on peut l'utiliser comme un gros iPod, puis on peut voir toutes les fonctionnalités, puis il ne pourra jamais être barré. Là, à cause qu'évidemment, la carte SIM était restée à l'intérieur, l'appareil essayait de communiquer avec les serveurs, puis Apple, ils ont contrôlé
là-dessus.
Donc,
vous avez compris, la prochaine fois que vous trouvez un iPhone, ça, vous enlevez la carte SIM.
À San Francisco, dans un bar, là, c'est ça.
Donc,
public à San Francisco.
Ouais,
c'est
clair.
C'est comment faire maintenant.
Mais c'est ça. Donc, l'appareil était verrouillé à distance, donc inutilisable. On pouvait seulement le connecter... dans le fond, avec un ordinateur, puis on voyait l'icône de iTunes avec le connecteur. Puis Gizmodo prétend que la résolution de l'écran semble supérieure. On pense peut-être du 960x640. La surface de l'écran est un petit peu plus mince.
Ouais.
Donc, ça semble être un peu plus rapproché du 16x9.
Ouais, 16x9. Et ça me fait rire, 960x640, là, c'est plus de résolution que mon premier écran d'ordinateur.
Eh oui.
Oui, mon premier Apple, c'était un 640 480. Hein, c'était un Centris.
Donc, au niveau physique, l'appareil est plus carré. Il n'y a pas le derrière arrondi comme les appareils qu'on a en ce moment. Donc, on revient avec une forme beaucoup plus simplifiée. Il y a deux caméras, une caméra frontale, donc
évidemment.
Tout ce qu'on rêve depuis des mois. Puis la caméra derrière semble avoir un objectif plus grand, donc on suppose que ça va être plus grand. Puis c'est ça, avec un flash, donc une meilleure résolution pour les caméras photo. L'appareil utilise le micro SIM, qui est exactement la même technologie que dans l'iPad, donc c'est pas les SIM cards comme vous avez en ce moment dans votre iPhone, c'est encore plus petit. Puis c'est ça.
La batterie serait 50% plus grande que celle du iPhone actuel.
En fait, non. Eux, c'est ce qu'ils disent, c'est que 50%. Elle prend 50% de l'appareil.
De la surface de l'appareil.
Ah, d'accord. J'ai lu un peu vite.
Puis au début, c'est sûr que Gizmodo était très sceptique. Ils ont démonté l'appareil. Ils voient que, justement, il y a des espèces de collants Apple un peu partout. On ne sait pas combien de gigs qu'il y a dans l'appareil parce que derrière, c'est marqué iPhone. Il n'y a pas de lettre à côté. Puis on voit XX Gig, donc c'est vraiment un prototype expérimental. Donc c'est ça, Apple a demandé à Gizmodo de revoir l'appareil, donc ça confirme en quelque sorte qu'ils en sont le propriétaire.
Ouais, puis le truc c'est qu'on a souci que Steve Jobs suivrait lui-même les appareils à la trace. Parce qu'ils peuvent...
Big Brother.
Oui, c'est ça, c'est Big Brother, là, tu sais. En même temps, il sait où sont ses employés qui ont le prototype, tout ça.
Ben, c'est sûr. Puis c'est sûr qu'ils sont pas 58, là, de n'avoir, là.
Non.
C'est clair qu'ils sont une vingtaine, même pas, là.
Ouais,
moi, je pense pas qu'il y en a
sûr.
Beaucoup. Fait que, en tout cas... Puis, une chose un peu cocasse, c'est que le iPhone en question, prototype, était emballé dans une espèce de plastique,
oui.
Une espèce de protecteur, une fausse coque de 3G, de 3GS pour justement que la personne puisse l'utiliser comme un téléphone puis faire les tests normaux sans se faire regarder tout croche parce que ton appareil est un peu carré ou un peu différent. Donc,
c'est assez drôle.
En somme, on a tous lu l'iPhone.
Oui.
On sait tous que l'appareil va sûrement ressembler à ça. D'ailleurs, avec le numéro de série, on considère que c'est un design verification test.
De chez
Donc,
Apple.
C'est vraiment genre un appareil quasi final. OK? Si il est lancé en juin ou en juillet, est-ce que vous l'achetez?
Oh ben, c'était déjà prévu.
C'était déjà prévu? Toi, tu changes à chaque fois qu'il y a un nouveau.
Je veux dire, c'est mon petit cadeau de l'année. Je prends le nouvel iPhone chaque année.
Dans le dos.
Mais je suis vraiment content d'avoir attendu. Mais c'est sûr que je l'achète.
Ouais.
Toi?
Probablement. Ça va dépendre avec la maison qu'on achète. Il va y avoir des dépenses.
Oui, il y a ça. J'ai
hâte, Ben, surtout avec la caméra frontale. On sait tout ce qui vient avec ça. Tous les logiciels de communication.
Mais est-ce qu'on va pouvoir skyper sur le 3G en vidéo? Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas.
Ah ouais, Skype vidéo, ça.
Ben oui.
C'est cool.
Ben oui, c'est pour ça, caméra frontale ou...
Non, mais je veux dire sur le 3G. En ce moment, on ne peut même pas parler au téléphone sur le 3G. Je ne sais pas.
En France, Orange a dit que ça va être possible maintenant de faire des services de VoIP comme le Skype sur iPhone. Aux États-Unis, il me semble avoir entendu la même chose avec AT&T. Donc, il manque plus que le Canada.
Sauf que, sais-tu ce que j'ai déjà fait à un moment où je voulais l'essayer? J'ai mis le tethering sur...
En tethering, tu peux le faire.
En tethering, puis là, j'ai appelé sur Skype, je t'avais appelé toi pour faire le test.
Le tethering, ça fonctionne, mais directement sur l'iPhone.
Non, faut que ça soit jailbreaké.
En fait le réseau le supporte, mais c'est juste qu'il donne pas la possibilité. Oui, et par rapport à ça, AT&T aurait bloqué les demandes de vacances de ses employés pour le mois de juin en prévision du lancement. Donc, il prévoit déjà qu'il va y avoir, évidemment, un engouement parce que l'update est assez majeur dans ce cas-là.
C'est pas un 3GS, non. Plus que ça.
Plus que ça. Ce qui a été mis en rouge, c'est qui a mis ça? Please note that we have a scheduled maintenance downtime. C'est toi, ça?
Oui.
Veux-tu que je finisse de le lire avec mon anglais?
Oui, ben, vas-y, je trouvais ça.
Please note, we have a scheduled maintenance downtime on... 23 avril 2010 from 7:30 p.m. Là, il donne la date de la maintenance during which no reporting access will be available. Thanks, iTunes.
Et vous imaginez, c'est lui qui a le meilleur anglais dans l'équipe. Donc, ça, c'est un message que j'ai eu sur mon compte développeur iPhone.
OK.
Pour me prévenir que ce soir, du moins cette nuit, il y allait avoir une maintenance sur l'espace développement d'iPhone. Donc, pour moi, derrière...
Toi, t'as mis ça dans les rumeurs.
Mais oui, j'ai mis ça dans les rumeurs parce que qu'est-ce que ça peut être? L'intégration de iAd, un nouveau service de statistiques, d'analytics qui est nul à chier pour l'instant. Et puis, je me retiens. Non, mais franchement...
Excuse ton allemand.
Les statistiques, là, pour quand on diffuse une application iPhone, tu peux télécharger sur un fichier Excel... trois données, t'as aucune information, c'est un 3G, un 3GS sur les données géographiques, rien du tout. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont changer ça. Alors peut-être cette nuit, ça serait bien. Pourquoi? Parce que ils ont interdit Flash, vous savez, dans CS5 pour faire des applications iPhone, Apple veut également interdire des systèmes de statistiques étrangers comme Google Analytics. Il y en a qui utilisent Google Analytics dans leur application iPhone. Maintenant, on ne pourra plus le mettre. Moi, j'utilise Flurry. C'est la même chose. Donc, s'ils interdisent, ça serait normalement pour offrir un service d'aussi bonne qualité. Donc, avec un peu de chance, ça sera cette nuit. C'est la rumeur, c'est mon pari.
C'est mon pari. Et tu nous en parles. Tu fais un retour là-dessus au prochain épisode.
Exactement.
C'est bon. Dernière rumeur. Google achète une compagnie de processeurs. C'est de toi, en
oui,
plus.
Oui. La rumeur s'est un peu enflammée au début.
Oui.
Donc Google a racheté cette compagnie. Ce sont des anciens employés d'une compagnie de développement de microprocesseurs que Apple avait acheté. Donc on s'est dit, Google veut se lancer dans les microprocesseurs. A priori, selon les dernières informations, non. Ce serait pour aider Google à porter Android sur différentes plateformes, mobile, ordinateur, TV. Notamment pour intégrer ça directement dans des TV. Donc voilà, petite peur au début parce qu'on annonce là une grande concurrence qui se développe entre Google et Apple, notamment avec le CEO de Google qui est sorti du CA de Apple, le fait que Apple lance iAd qui est en concurrence de AdMob, le logiciel de publicité mobile que Google a racheté. Et d'ailleurs qui est en instance de validation par l'organisme de concurrence américain. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Non.
La FCC, je ne sais pas quoi, aux États-Unis.
Oui, la FCC, oui.
Oui, qui n'a pas encore donné l'autorisation à Google de racheter AdMob. Okay. Pourquoi ? Pour position dominante. Et finalement, on se dit que le fait que Apple lance iAd... Est-ce que ça aiderait pas Google? Est-ce que Apple et Google ne seraient pas entendus, finalement?
Ben, peut-être.
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 Concurrence pour mieux dominer.
Parce que Google voulait acheter la compagnie qui a construit iAd, je me souviens plus de cette compagnie. Finalement, ils l'ont pas pris et puis c'est Apple qui l'a racheté. Non, mais je trouve ça assez marrant à suivre.
On va terminer le dernier segment des nouvelles en vrac, des courtes nouvelles sur différents sujets. La première, c'est les agences de pub reçoivent les détails pour la publication sur la plateforme iAd, donc ça s'en vient. De plus en plus.
Peut-être qu'on peut connecter ça avec justement la rumeur qu'il y aura en parlait
cette nuit. Oui, tout à fait. Peut-être oui, peut-être qu'il y a de ça là-dedans. Une autre nouvelle, pour un produit concurrent, Palm s'est mis en vente récemment. Vous en avez peut-être tous entendu parler. Moi, je dis que c'est évidemment trop peu, trop tard parce que entre autres, ils ont tardé pour faire évoluer la plateforme. Et quand ils l'ont fait évoluer, les documents, les applications de l'ancienne plateforme n'étaient plus compatibles avec la nouvelle. Donc, c'est carrément un nouveau produit qu'ils ont lancé qui n'a plus rapport avec...
Ils ont perdu tout l'acquis qu'ils avaient, c'est dommage.
Et oui, tout à fait. Et s'ils avaient attendu peut-être un an de moins pour faire évoluer et garder un peu une transition entre les deux plateformes, il y aurait eu plus de chances de succès. Mais
ça aurait été
moment,
une autre histoire.
Qui va acheter ça? Ça évidemment, le prix ne sera pas à la valeur que ça avait avant parce que en plus, même les gens n'achèteront probablement pas à sa valeur actuelle parce qu'on sait qu'ils vont continuer à perdre des plumes.
Moi, je te le dis, ça ne m'intéresse pas déjà.
Non, c'est sûr.
En tant qu'individu, ça t'intéresse pas d'acheter Palm, l'appareil? Là? Est-ce que
des
compagnies vont vouloir acheter la compagnie?
Ouais.
Non.
Par contre, des actions Apple, là, on annonce encore du 300-350 $ l'action.
Ouais.
Là, ça vaut le coup.
Oui, mais Palm, par exemple, ça pourrait être intéressant pour une compagnie de cellulaire qui veulent avoir une meilleure plateforme pour leur cellulaire.
Oui, mais l'intégration entre deux compagnies ne se fait pas du jour au lendemain.
Ouais. Non, c'est sûr.
C'est pas un bouton magique.
Non, c'est clair. Mais sinon, ça risque de mourir.
On parle peut-être de Lenovo, je crois, dans les
rumeurs.
Dans les compagnies qui pourraient racheter Palm. Ça pourrait faire du sens.
Ouais, faut voir. Turn by turn sur iPhone.
Ouais, ben Google Turn by Turn, c'est un service, le Turn by Turn Navigation que Google a proposé sur son nouveau système d'exploitation d'Android 2.0. Donc, ça vient déjà genre avec le système d'exploitation, c'est gratuit. Puis, à l'époque, ils avaient affirmé que c'était possible que justement le logiciel connaisse une itération sur iPhone. Mais cette semaine, ils sont revenus sur leur déclaration en nuançant les propos en disant « On n'a pas dit qu'on ferait ça. On ne sait pas si ça va être disponible sur iPhone ou pas. »
Ah, peut-être que j'ai cru l'espace d'un instant.
Non, mais c'est peut-être que la relation Google-Apple n'est pas aussi simple.
Non, c'est sûr. C'est sûr.
Pour revenir là-dessus, moi, je pense que c'est un peu comme Microsoft et Apple à une époque. Microsoft a investi de l'argent dans Apple pour justement ne pas être accusé de monopole. Mm-hmm. Et ils avaient besoin qu'il y ait un concurrent qui se maintienne. Et j'ai l'impression que Google fait la même chose avec Apple pour une certaine partie. Comme on parle que Apple pourrait lancer son propre moteur de recherche, puisque sur l'OS 4 de l'iPhone, sur Safari, le petit moteur de recherche Google dans le coin disparaît.
Oui. Mais en fait, c'est l'appellation Google disparaît. Fait qu'ils disent, est-ce que ce sera un nouveau...
Eh oui.
Ça pourrait être, moteur de recherche,
ça pourrait être un concurrent, mais ça pourrait être également le propre moteur de recherche d'Apple. Mais ça bénéficie à Google parce que Apple va pas prendre des marchés là-dessus. Là, on a aucune peur.
Je sais pas si tu te rappelles à l'époque, il y avait fait un test avec Sherlock un bout de temps où est-ce que tu cherchais à partir de ton desktop, mais aussi tu pouvais chercher sur le web à partir de Sherlock, à partir de l'engin de recherche de l'ordinateur. Fait que tu n'allais même pas dans le furteur, tu étais sur ton desktop de Apple, puis c'était assez...
Mac OS 8 qui introduisait Mac OS
8.5. Non, c'était dans Mac OS 10, je pense.
Non. Oui, Sherlock, là, c'est fucking Mac OS 8.
Ah oui?
Oh, moi, j'ai pas connu vieux. Ça. Ça me dit quelque chose!
Non, c'est plus que Mac OS 8. Non, Mac OS 9. Non, il y avait une version.
Non, Mac OS 8.
C'est pas milieu des années 90, ça, non?
Non. Non, c'était dans les années 2000. Une petite nouvelle, un BDS, c'est une nouvelle amusante, un BDS gagnant du prix Pulitzer s'est fait refuser son application pour iPhone sous prétexte que de se moquer d'un personnage public, ça viole la licence du programme de développement d'application du iPhone. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il a reçu le prix Pulitzer en début de semaine. 3 jours après, il se fait refuser son application. Et là, depuis que c'est sorti dans tous les médias, là, Apple a fait « Ah, mais resoumets-la, on va l'accepter maintenant. » Donc, c'est un peu ridicule. Ouais, là. Ça, c'est assez douteux de la part d'Apple.
Mais il y a un certain puritanisme à la Walt Disney. Ben, d'ailleurs, il y a des parts entre les deux qui est un peu désagréable avec Apple. Mais ouais, ça, c'est peut-être un peu typiquement américain, on va se dire.
Oui. Mais en même temps, il y a le mauvais côté, il y a le bon côté. C'est sûr que si on se met à avoir plein d'applications 3X là-dessus à un moment donné, puis de n'importe quoi,
ben, d'ailleurs,
ça devient n'importe quoi.
Vous savez ce que Steve Jobs a dit à ce sujet? Si à l'avenir, il y aurait des applications porno sur iPhone, il a dit non, je laisse ça Android.
c'est excellent. Bon, on sait c'est qui le public cible. C'est assez drôle. Apple se prépare à soumettre la version 10.6.4.
Ouais, une simple nouvelle brève. Ouais. C'est ça, ça a été annoncé cette semaine que justement que les développeurs commençaient à recevoir la version 10.6.4. Donc, on peut supposer que dans environ un mois, ben, vous allez pouvoir mettre à jour votre système d'exploitation.
Donc, ça veut dire que c'est Snow Leopard Turbo, c'est ça?
Non, il n'y a rien de...
Il n'y a rien de spécial.
Il n'y a rien de spectaculaire.
Il n'y a pas de précision.
C'est une en vrac. C'est la plus vrac.
C'est la plus en vrac. Elle n'est pas du tout détaillée. Dernière nouvelle en vrac. Des profits chez Apple de 3,07 milliards pour le deuxième trimestre de 2010. Hallucinant. Oui, acheter
des pommes.
Et ce qui est drôle, c'est que c'est le meilleur trimestre hors période de Noël de tous les temps. C'est drôle parce qu'on a déjà dit ça à un moment donné. Il y avait eu un trimestre spectaculaire, je pense, l'année passée. Puis c'était le meilleur trimestre hors période de Noël de tous les temps. Mais là, ça l'est encore.
Ben là, tous les trimestres sont extraordinaires chez Apple.
Ils sont leur meilleure concurrence. Apple a une croissance annuelle pour les ventes du iPod Touch de 63% en moyenne. Donc, chaque année, ils vont chercher 63% de croissance. C'est quand même énorme, année après année. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils possèdent toujours plus de 70% du marché du lecteur MP3. D'autres statistiques comme ça, la croissance des ventes du iPhone est trois fois supérieure à la moyenne du marché des téléphones intelligents. Donc, et tout téléphone intelligent confondu. Les ventes en magasin sont en hausse de 22%. Et ça, c'est du stock. C'est beaucoup, beaucoup de stock. Et selon leur étude, ben 50% des clients Apple rachètent du Apple la fois suivante quand ils remplacent leur appareil. Donc, et ça, c'est pour n'importe quel produit. Donc, quelqu'un a acheté un iPod la fois d'après. La moitié des gens qui ont acheté un iPod vont en racheter un. Et c'est pour tout produit confondu. Donc, c'est assez...
C'est impressionnant. Pour ajouter une statistique, au dernier Momomo, c'est le Montreal Monday Mobile, la rencontre des professionnels mobiles, il y avait Monsieur Druid, c'est le président de la compagnie Druid qui produit notamment Antidote, on vous en reparlera, qui disait que Apple faisait aux États-Unis 80% de la valeur du marché informatique, c'est de l'argent. Il représente quoi, 8 ou 9% de parts de marché.
Mais sur les
ordinateurs à plus de 1 000 $, il est leader. Et sa marge représente 80% de la valeur du marché aux États-Unis.
OK. Mais au niveau des ordinateurs aux États-Unis, Apple, c'est 20% maintenant qu'ils ont environ?
Non,
pas les ordinateurs, oui. Environ.
Moi, j'étais resté à 8-9%.
Ça, c'est mondial.
Ah!
Ça, c'est mondial. Les États-Unis sont beaucoup plus implantés parce que, étant donné qu'ils sont dans les écoles, ils supportent beaucoup le milieu éducatif. Les gens, après ça, sortent de l'école, continuent à en acheter.
Ça fait du sens. 20% du marché, 80% de la valeur, là, c'est le 20-80.
Ça fait plus de sens, Parce que, au niveau mondial, c'est un peu en bas de 10%. De part de marché. Mais c'est
impressionnant parce que quand on parlait tout à l'heure, je n'étais pas content par rapport aux nouveaux tarifs, mais c'est typiquement leur positionnement haut de gamme.
Et tu vas acheter de toute façon le prochain produit.
Parce qu'il est plus cher, mais parce que j'adore ça.
Parce qu'il est meilleur, tout simplement. Et ça fait le tour de toutes les nouvelles qu'on a à vous parler. Est-ce qu'on a un petit quelque chose à ajouter?
Moi, ce que je propose, on a deux personnes autour de la table qui testent depuis quelques jours l'OS 4 de l'iPhone.
Ouais.
Un sur le 3G avec Laurent et puis sur le 3GS avec l'autre Laurent, moi-même. Qu'est-ce que toi, tu as retenu? Allez, en deux mots, un truc que tu as retenu qui te plaît.
La première chose que j'ai faite, c'est des fucking dossiers.
Ouais.
C'est tellement merveilleux. J'ai juste deux pages. J'avais 6 pages avant, j'en ai 2.
Ben, j'en avais 12, j'en ai 3.
Vraiment du bien.
C'est magique.
Sinon, moi, j'ai associé ça avec les dossiers, mais je ne sais pas si c'est... je vais parler dans le micro.
Oui, parle dans le micro, s'il vous plaît.
J'avais remarqué que dès que j'ai créé des dossiers, j'ai eu des problèmes de synchronisation. Moi, je pense que c'est généralisé avec le 3G. Je pense que le 3GS, tu n'as peut-être pas ce bug-là.
Les problèmes de synchronisation, c'est parce qu'on est sur une version bêta de l'OS 4 et qu'il n'y a pas une reconnaissance. iTunes n'est pas adapté au OS 4.
Ouais, mais il aurait dû juste faire une mise à jour.
Mais toi, c'est quoi tes problèmes de synchronisation?
Il dit, le message d'erreur que j'obtiens, c'est que la synchronisation est impossible parce que l'iPhone a refusé, mais...
Mais il synchronise quand même.
Mais il synchronise quand même, ouais. C'est ça que je...
Mais c'est ça, c'est ce que je te dis, ouais. C'est iTunes qui n'a pas été mise à jour. Ben, c'est normal, okay. Parce que la version bêta n'est pas une version publique. Ouais.
Mais sinon, hyper stable. Pour une version bêta, ça m'a vraiment surpris... J'ai pas remarqué vraiment de grands changements. J'ai été excessivement déçu de pas pouvoir mettre un background.
Oui.
Un background, là, ça, là, c'est cette super nouvelle feature-là. Le wallpaper.
Oui.
On peut pas mettre de wallpaper quand on a un iPhone 3G. Il est pas assez puissant pour supporter une image puis des icônes en même temps.
Ça marche pas sur l'iPhone 3G.
Tu peux pas. C'est pas supporté sur le 3G.
Moi, un petit mot, c'est concernant le multitâche. Mm-hmm. C'est une des grandes nouveautés qui est annoncée pour l'OS 4.
Que je ne peux pas profiter.
C'est intéressant, mais ce qu'il y a, c'est que ça ne fonctionne pas avec les applications que j'ai parce qu'il faut que l'application soit encodée multitâche. Okay. Ce qui veut dire que toutes les anciennes applications ne vont pas prendre en compte le multitâche.
Tant qu'elles ne sont pas mises à jour.
Tant qu'elles ne sont pas mises à jour, oui.
Voilà.
Mais avec une mise à jour...
Il faut qu'elles soient mises à jour multitâche.
Parce que c'est ça. Apple, okay. quand ils ont fait le dévoilement de l'OS 4, ils ont dit... On a vérifié les applications courantes, puis on a soulevé 7 niveaux où ce que le multitasking était possible. Mais il faut quand même justement convertir ces applications-là pour que ce soit faisable.
Oh, c'est un truc bien. Email et une boîte universelle. Ah, ouais. Ça paraissait tellement évident. On a une seule boîte avec tous nos emails qui rentrent là-dedans.
Je peux avoir mon spam direct en mélangeant avec le reste. Je suis tellement content.
C'est le bonheur.
Voilà, mais c'était notre petit retour sur l'OS 4. Peut-être que la prochaine fois, on vous en dira plus.
Eh oui. Donc, je pense que c'est maintenant ce qui met fin à notre émission. Donc, on vous dit à très bientôt. Le prochain rendez-vous sera quand déjà? Est-ce qu'on,
moi, je dirais le 7 mai.
C'est le 7 mai? OK, d'accord.
C'est une bonne idée.
Oui.
Le vendredi 7 mai, la même heure, 3h.
Même heure, même poste, même Atomic Café. L'adresse du Atomic Café, on a dit qu'on allait la mentionner.
Oui, c'est le 3606 rue Ontario à Montréal, évidemment.
Ontario Est, attention.
Ontario Est, oui. Et donc, si jamais ça vous intéresse de venir faire un tour, essayez de nous déconcentrer pendant qu'on essaye
vous êtes les bienvenus.
D'animer cette émission. Venez en grand nombre. Donc, moi, Sylvain Garmaison, je vous dis à très bientôt, ainsi que mes collègues.
Oui, Laurent Lassalle sur Twitter.
Oui.
Pourquoi pas se plugger? Il faut se plugger. Lesparolessenvolent.com quand on veut aller sur l'Internet en général.
Oui.
Et Laurent Maisonnave, vous cherchez The Laurent, Z2, Laurent, Twitter, Facebook, blog, everywhere.
Everywhere. Et moi, pour l'instant, allez donc sur Twitter, S Grand Maison. Comme ça, si je me remets à podcaster puis à bloguer, vous le saurez un jour.
C'est bon.
Donc, on vous dit à très bientôt et amusez-vous bien.
Salut les amis.
Ciao. Ciao.